La conquête de la terre promise par le peuple hébreu commence par un événement significatif qui est généralement oublié, qui nous est rapporté dans le livre des Nombres, où il nous est dit que Moïse a changé le nom de Osée en Josué. Et le nom de Josué, c'est en fait Yeshua, c'est-à-dire Yahvé Sauveur. Et tout d'un coup, on comprend que ce nom de Josué, Yeshua, est en fait le même nom que celui de Jésus. Et là, tout d'un coup, s'ouvre une perspective immense, parce qu'on comprend que c'est effectivement Jésus qui va conduire son peuple dans la terre promise, mais pas une terre promise sur cette terre, ce qu'il promet pour son peuple à son retour. Cet événement, apparemment insignifiant, donne ainsi une couleur toute nouvelle aux événements qui vont suivre et qui vont graviter autour de la conquête de Canaan sous la directive de Josué. Dans le livre de Josué, au chapitre 9, il nous est raconté que les peuples qui se trouvent dans Canaan sont inquiets de voir le peuple hébreu venir s'installer sur leur territoire. Ils sont là, installés à Gilgal, dans la plaine de Jéricho. Et ces gens ont entendu parler de tout ce qui s'est passé depuis longtemps dans le désert. Ils ont appris que le peuple hébreu a été nourri par la manne, miraculeusement pendant des années. Ces peuples ont appris ce qui est arrivé aux rois qu'ils ont rencontrés en chemin et qui ont voulu s'opposer à eux. Ces gens ont surtout appris ce qui est arrivé à Jéricho, où finalement la ville est tombée au son de la trompette. Ces gens ont appris ce qu'ils ont fait avec tous les habitants de Jéricho et tout ce qui était à Jéricho. Ils ont appris ce qui est arrivé à Haï aussi, juste après. Et ils se disent, au lieu de nous disputer entre eux, on ferait mieux de se mettre d'accord, de rassembler nos forces pour s'opposer à ces gens, parce que ça devient dangereux. Et le texte nous dit que ces rois, au nombre de 6, vont s'allier pour s'opposer à Josué. Déjà, on retrouve toute cette image du grand conflit entre Christ et Satan, qui essaie de s'opposer à Jésus, notre Sauveur. Mais dans cette histoire, évidemment, ces rois n'ont pas compris que leur résistance ne sert à rien. Ils peuvent rassembler toutes les forces qu'ils veulent, ils n'ont aucune chance devant Josué, parce que Josué, c'est Jésus. Mais il y a un peuple qui, réalisant que devant Josué, ils n'ont aucune chance, ce peuple va décider d'utiliser une autre stratégie. Ce sont les Gabaonites. Et ils vont décider de contourner la difficulté et de trouver le moyen de faire alliance avec Josué sans qu'ils s'en rendent compte. Ou en tout cas, sans qu'ils se rendent compte qu'ils sont eux aussi des habitants de la terre promise qu'ils doivent chasser. Ainsi, les Gabaonites vont utiliser la ruse, nous dit le texte. Et ce n'est pas bien entendu cet aspect de ruse qui m'intéresse aujourd'hui, mais c'est la manière dont ils vont réaliser leur plan. Probablement que les Gabaonites savaient que Dieu avait donné des instructions précises au peuple hébreu. Dieu leur avait commandé de ne faire alliance avec aucun des peuples de Canaan. On peut le relire, si vous le voulez, dans le livre du Deutéronome au chapitre 7. On va lire dès le verset 1er. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens, sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrées et que tu les auras battues, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles, tu ne leur feras point grâce. Pas d'alliance avec les populations de Canaan. Les Gabaonites se sont dit, puisque ce peuple ne peut pas faire d'alliance avec les gens de Canaan, eh bien on va leur faire croire que nous sommes des gens qui viennent de loin, de très très loin, qui ne sont pas une menace pour eux, et par conséquent, ils accepteront de faire alliance avec nous. Et le texte nous dit dans Josué chapitre 9, au verset 3, « Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route, avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes, de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Voilà ces gens qui viennent à Josué, qui se présentent de cette manière, disant qu'ils viennent d'un pays très très lointain et qu'ils ont voyagé tellement longtemps que voilà dans quel état ils arrivent. Ainsi, ils demandent à Josué de faire alliance avec eux. En fait, ces gens viennent de Gabaon. Quatre villes finalement, Gabaon, Béroth, Kirjath-Jéarim et Képhira. Quelques villes qui se situent plus ou moins à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de ce qui sera appelé plus tard Jérusalem. Des gens du pays finalement. Nous sommes venus de très loin. Quand nous avons mis ces pains dans nos sacs, ils étaient encore tout chauds, ils sortaient du four. Mais regarde maintenant ces miches en miettes, moisies. Nous avons voyagé depuis très très loin. D'où venez-vous? Oh, c'est un pays lointain, tu ne pourrais même pas prononcer son nom, tellement c'est loin. Et finalement, nous apprenons que Josué, sans consulter l'Éternel, avec les chefs, ont décidé de faire alliance avec eux. Mais je trouve intéressant la manière dont ils se présentent à Josué. Ils viennent, nous dit le texte, avec de vieux sacs, de vieilles outres, des souliers raccommodés, de vieux vêtements et du pain sec. Lorsqu'on pense à Josué étant Jésus, et lorsqu'on pense à ces gens qui viennent à lui, on pense aussi à l'état d'esprit dans lequel nous sommes invités à être lorsque nous nous présentons à Christ pour faire alliance avec lui. Le texte nous dit qu'ils avaient pris avec eux de vieux sacs pour leurs provisions, pour mettre ce qu'ils possédaient. Mais leurs sacs sont troués, probablement qu'ils n'ont pas tenu ce qu'ils contenaient. Je pense à ce texte de l'épître de Jacques, que je vous invite de regarder avec moi, qui parle de la même chose. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, nous commencerons à lire au verset 2. Il est écrit ceci. « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Les sacs troués, vous ne possédez rien parce que vous ne demandez pas, et quand vous demandez mal parce que vous avez l'intention de satisfaire vos désirs égoïstes et vos passions personnelles. Vos sacs sont troués, vous ne possédez rien. Dans le livre du prophète Agée, au chapitre 1 et au verset 6, nous retrouvons la même idée. Il est dit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Et Dieu dit, considérez attentivement vos voies. Parce que le Seigneur fait remarquer que les voies de son peuple sont tellement tordues que rien ne fonctionne. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Vous ne possédez rien, rien ne fonctionne. En fait, parce que vous n'êtes pas fidèle et parce qu'en réalité, vous avez de mauvais motifs, votre religion est devenue totalement creuse. Votre sac est troué et vous avez perdu vos possessions. Et vous êtes pauvre. Pauvre spirituellement et pauvre dans tous les domaines parce que votre infidélité empêche le Seigneur de marcher avec vous. De vieux sacs. Et puis le texte nous dit qu'ils sont aussi venus avec de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Vous vous souvenez que Jésus avait parlé de cela dans l'Évangile selon Matthieu. Nous retrouvons ce texte au chapitre 9. Évangile selon Matthieu, chapitre 9. Au verset 17, il est écrit ceci. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Le vin est un symbole du sang, et le sang avait un rôle principal, un rôle central dans la religion des Hébreux pour attirer l'attention sur le sacrifice que Jésus allait faire. Mais voilà que ces gens viennent avec des outres déchirées, recousues. Il n'y a probablement plus beaucoup de vin dans ces outres déchirées et recousues. Elles ont coulé tout le long du chemin. Elles ont perdu leur contenu. et ce qui reste est fermenté. C'est une image, effectivement, de la situation de beaucoup qui ont l'apparence de la piété, mais qui ont renié ce qui en fait la force. Ils ont encore le contenant, mais le contenu est disparu. Et s'il reste quelque chose dedans, ce contenu est fermenté. Fermenté par les traditions humaines, fermenté par les habitudes qui ont fait qu'avec le temps, on est tombé dans une routine qui a vidé cette religion et cette foi de sa vraie substance. Voilà comment ils viennent, avec des outres déchirées, recousues, qui ont perdu leur contenu et qui ont fermenté. Il nous est dit aussi qu'ils viennent avec de vieux souliers raccommodés. Les souliers, c'est la marche. Avez-vous déjà essayé de marcher avec un soulier en bon état et un autre qui est cassé? Vous marchez d'une drôle de manière. Et vous ne marchez pas longtemps, parce que finalement, vous jetez encore le bon soulier pour marcher pieds nus. L'apôtre Paul parle de la marche chrétienne dans l'Épître aux Éphésiens. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 1. Il dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. La marche, c'est cette image qui est reprise dans le Nouveau Testament pour nous représenter notre vie chrétienne quotidienne, notre marche chrétienne. Et si nous marchons d'une manière tordue, c'est parce que nous n'avons pas mis à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. L'apôtre Paul lui-même, dans la même épître, fait la description du soldat qu'est le chrétien, et pour les souliers, il va dire, voilà, c'est le zèle que donne l'évangile de paix. Si notre marche chrétienne est une marche déséquilibrée, une marche tordue, c'est notre vie entière qui l'est. Une vie chrétienne qui n'est pas en harmonie avec la vocation qui nous a été adressée. Vous vous souvenez, Jean-Baptiste, en parlant de Jésus qui devait venir, disait « Je ne suis même pas digne de dénouer les lacets de ses souliers. » Et Jean-Baptiste voulait faire comprendre que sa vie à lui n'était pas du tout à comparer avec la dignité de la vie de celui qui devait venir, Jésus-Christ. Souvenez-vous, lorsque Dieu instaure la Pâque et donne les instructions dans Exode chapitre 12 pour que les Hébreux se préparent à fêter la première Pâque juste avant de quitter l'Égypte, un certain nombre d'instructions sont données sur la manière avec laquelle ils doivent préparer ce repas de Pâques et il leur dit qu'ils doivent manger les souliers aux pieds et le bâton à la main. Prêt à partir. Prêt à partir dans une aventure de vie tout à fait différente par rapport à ce qu'ils avaient vécu précédemment. Prêt à partir dans une aventure de vie avec Dieu. C'est une image de cette vie nouvelle à laquelle ils étaient invités. Et puis prenez l'image maintenant que Jésus avait donnée du fils prodigue. Vous vous souvenez ce fils prodigue qui s'en va, qui dilapide l'argent de son père, qui finalement un jour rentre en lui-même, retourne chez son père, et lorsque son père l'accueille, il lui donne, vous vous en souvenez, une robe, il lui donne un anneau pour mettre au doigt et des souliers à ses pieds. Montrant par là qu'une vie nouvelle commence maintenant dans la maison de son père. Une nouvelle marche dans la maison de son père. Ainsi, celui qui vient et qui se présente à Jésus, qui se présente à Josué, vient avec une marche, une vie chrétienne qui est tout à fait déséquilibrée, qui ne correspond pas à la vocation qui lui a été adressée. Il a besoin de nouveaux souliers pour qu'une vie nouvelle dans le concret, dans le pratique, s'instaure dans sa vie. Le texte nous dit que ces Gabaonites sont venus avec de vieux vêtements. Et là, tout de suite, nous pensons à ces passages de l'Ancien Testament qui utilisent l'image du vêtement pour parler de notre justice à nous. Regardez ce texte dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 64. Ésaïe chapitre 64, au verset 5, il est écrit ceci. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ces gens sont venus avec ce qu'ils étaient, et ce vêtement représente leur nature, leur condition humaine, un vêtement souillé en lambeaux, des haillons. C'est l'image de notre condition, de notre justice, qui n'en est pas une. Et souvenez-vous, lorsque, cette fois-ci, Josué est présenté dans le livre de Zacharie, le sacrificateur, dans cette vision, il voit l'ange de l'Éternel qui dit « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué « Vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. » Nous avons besoin de nous débarrasser de notre condition humaine misérable et de recevoir cet habit de fête que le Seigneur nous donne. Comme pour le fils prodigue, cette robe qu'il lui donne, de nouveaux vêtements. Recevoir, autrement dit, le pardon. Recevoir cette grâce de Dieu qui enlève ce vieux vêtement, qui enlève cette condition humaine et qui la remplace par cette robe de justice, ce pardon, cette nouvelle condition de fils et de fille en Jésus-Christ. Il y a dans le Nouveau Testament une histoire intéressante qui se passe d'ailleurs à peu près au même endroit, à Jéricho. Vous vous souvenez, Jésus arrive à Jéricho et à l'entrée de la ville de Jéricho, il y a là un mendiant qui s'appelle Bartimée. Bartimée est aveugle. Et lorsqu'il entend que Jésus arrive, il appelle Jésus, « fils de David, aie pitié de moi !» Les gens font taire ce mendiant qui dérange. Et plus on veut le faire taire, plus il crie, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus l'entend. Et Jésus l'appelle. Alors les gens, tout d'un coup, changent et lui disent, « Hé, lève-toi, dépêche-toi, Jésus t'appelle !» Que fait cet homme? Vous vous en souvenez? Dans l'Évangile, selon Marc, au chapitre 10, il nous est dit, « L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. » L'image est fantastique. Cet homme rejette son manteau de mendiant. Et même avant d'avoir été guéri, il sait que sa vie va changer drastiquement. Il sait que sa vie va être nouvelle. Il sait qu'il va changer de condition entièrement. Ce manteau de mendiant qui est le sien et qui a été le sien pendant des années, il n'en a plus besoin. Il le jette et il va à la rencontre de Jésus parce que là, il sait qu'il aura la guérison. Dans l'Apocalypse, vous vous souvenez à quel point le Christ insiste dans cette lettre qu'il envoie à l'Odyssée sur la nécessité de recevoir le manteau qui est donné par Christ. Cette église de l'Odyssée qui se sent bien finalement, qui pense n'avoir besoin de rien, au chapitre 3, il nous est dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. » De nouveaux vêtements. Ces vieux haillons, cette condition humaine qui est la nôtre, il faut les changer contre ces vêtements blancs que le Seigneur nous propose de recevoir gratuitement de sa part. Et puis finalement, les Gabaonites étaient venus avec du pain sec et en miettes. Vous vous souvenez comment Jésus parle du pain dans le sermon sur le pain de vie dans l'Évangile de Jean au chapitre 6. Évangile selon Jean au chapitre 6. Dans ce chapitre, Jésus reprend à plusieurs reprises l'image du pain. Il va dire par exemple au verset 35 « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et un petit peu plus loin dans le même chapitre, au verset 51, il dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Jésus est ce pain. Et ces gens viennent avec un pain en miettes, misérable. Il n'est plus mangeable. Ils n'ont pas ce pain frais de la parole de Dieu qui les nourrit. Le pain qu'ils ont a perdu sa fraîcheur complètement. Il ne tient même plus ensemble. Il n'y a plus de cohérence dans leur conception des Écritures et dans leur connaissance biblique. Il n'y a plus rien qui tient ensemble. Tout est disparate. Il n'y a plus de logique. C'est un pain qui est immangeable. Avec le temps, leur vie chrétienne s'est émiettée. Le pain n'a pas été renouvelé et il a probablement moisi. D'ailleurs, vous savez, si vous mangez du pain de seigle moisi en suffisance, vous allez probablement avoir des hallucinations parce qu'il est là dans quelque chose qui ressemble à du LSD et vous allez avoir des visions. Et je crains qu'aujourd'hui, il y ait bien des gens qui mangeaient du pain moisi et qui aient des hallucinations pensant avoir des révélations divines alors qu'en réalité, ils parlent des visions de leur propre cœur. et ils vous disent « Le Seigneur m'a dit », alors que le Seigneur ne leur a rien dit. Pain moisi. Où donc va-t-on chercher notre nourriture? Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 55, le Seigneur propose déjà cette nourriture. Vous vous en souvenez, dès les premiers versets, il dit ceci, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, venez. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. » Comment peut-on manger cette nourriture substantielle que le Seigneur nous propose? « Écoutez-moi donc, dit-il, en recevant sa parole, en nous nourrissant de sa parole et non pas de la nôtre. » La manière dont les Gabaonites se présentent à Josué est une image finalement de la manière dont nous sommes invités à nous présenter à Jésus, tel que nous sommes, avec nos sacs troués, pauvres que nous sommes, avec nos outres qui fuient et notre religion qui est devenue moisie par les traditions, les habitudes, corrompues, avec nos souliers raccommodés, avec cette vie déséquilibrée qui a besoin d'être corrigée par le Seigneur, avec nos vêtements usés, notre péché qui a besoin d'être couvert par la justice du Christ, avec notre pain sec en attendant qu'il nous donne le pain frais de sa parole. C'est ainsi que nous sommes invités à nous présenter à lui tel que nous sommes, pour qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser au contraste qu'il y a entre ces Gabaonites, qui viennent en fait des villes d'à côté, et le peuple d'Israël qui arrive de 40 ans de voyage dans le désert. Regardez par exemple ce qu'il est dit dans Deutéronome au chapitre 29, qui est une description intéressante où Dieu leur rappelle le nombre des bénédictions dont ils ont bénéficié pendant toutes ces années. Dans le livre du Deutéronome au chapitre 29, au verset 5, il est dit ceci. Deutéronome, chapitre 29, le verset 5. « Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain, vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Ces Hébreux ont marché 40 ans dans le désert. Leurs vêtements ne se sont pas usés, leurs souliers ne se sont pas usés, parce qu'en réalité, ils marchaient avec Dieu chaque jour. Ils avaient constamment renouvelé les grâces du Seigneur à leur égard. C'est ainsi que nous sommes invités à venir à lui. Ces Gabaonites ont prétendu venir d'un pays très lointain, tellement loin que le nom n'est pas indiqué dans le texte. Et on pourrait se demander, mais de quel pays viennent-ils? Je pense à cette parabole auquel je faisais allusion tout à l'heure, la parabole du fils prodigue, où la même indication nous est donnée. Ce fils prodigue, où est-il allé? Il est allé dans un pays lointain. En fait, ce pays lointain est à l'image de la distance qu'il y avait entre lui et le Père. Et si dans le texte de Josué, le nom de ce pays lointain n'est pas donné, c'est simplement parce que nous pouvons y mettre notre nom à chacun. Notre nom à chacun donnera la distance qui nous sépare d'avec le Père. Un pays lointain, mais par Josué, par Jésus, par l'alliance que l'on fait avec lui, nous avons été rapprochés. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, mentionnait à quel point autrefois nous étions sans alliance, loin de Dieu, mais maintenant par Jésus-Christ nous avons été rapprochés. Et c'est la situation de ceux qui viennent à lui. Ceux qui se sentent tellement mauvais ne sont pas disqualifiés. Aucun n'est disqualifié. Nous ne pouvons simplement nous disqualifier que si nous pensons être suffisamment bons pour ne pas avoir besoin de venir faire alliance avec lui. Mais l'histoire dans Josué chapitre 9 continue, elle rebondit quelques versets plus loin, parce qu'évidemment, 3 jours après, nous dit le texte, les Hébreux vont réaliser qu'en réalité, ce sont les voisins qui sont venus à eux et avec qui ils ont fait alliance. Et moi, dans le camp, les chefs disent « Ah, cette fois-ci, il faut les tuer. » Non. Le peuple aurait voulu agir contre eux, mais Josué intervient « Non, nous avons fait alliance avec eux. » Et Josué va être le garant de cette alliance qu'ils ont fait avec les Gabaonites. Ils vont avoir une condamnation. Et cette condamnation, entre guillemets, elle se trouve dans Josué au chapitre 9. On va lire le verset 23. Josué chapitre 9, verset 23. « Maintenant, vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper du bois et de puiser de l'eau dans la maison de mon Dieu. » Est-ce véritablement une malédiction que d'être constamment au service de la maison de Dieu? Je pense à ce passage que j'aimerais lire avec vous dans la première épître de Paul aux Corinthiens, où il parle de cet esclavage, avec guillemets, de cet esclavage du croyant. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 7, le verset 22. Il est écrit ceci. « Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. » L'apôtre Paul fait comprendre que s'il y a quelqu'un dont nous pouvons être esclaves et être heureux, c'est bien de Christ. Parce que notre propre liberté n'est en fait qu'une autre forme d'un esclavage. En réalité, ce qui était une malédiction dans le texte apparemment est en réalité une bénédiction pour ces Gabaonites. D'ailleurs, il est intéressant de voir que l'archéologie a mis en évidence des éléments intéressants. On a retrouvé à Gabaon deux sources. Deux sources dont l'accès a été aménagé d'une façon extraordinaire. Deux immenses volées d'escaliers qui descendent jusqu'à la source et qui montrent qu'il y avait là, à Gabaon, une activité intense autour des sources d'eau. Deux grandes descentes d'escaliers très larges pouvant accommoder de nombreuses personnes qui descendent et qui montent en même temps. Et puis, curieusement, l'autre ville voisine qui était aussi aux Gabaonites s'appelle Béroth. Elle s'appelle le puits. Il y avait là sans doute aussi de quoi puiser abondamment l'eau qu'ils puisaient pour la maison du Seigneur. Et puis Kirjath-Jéarim, la ville des forêts. Ville des forêts, le bois qu'ils devaient couper pour apporter à la maison du Seigneur. Quand j'y pense, à quoi servait ce bois? Eh bien, ce bois servait inévitablement au sacrifice. Il fallait du bois parce que le sacrifice était là sur l'autel des sacrifices, allumé jour et nuit. Ils ont donc contribué, ces Gabaonites, à entretenir le sacrifice et ce qu'il représente. Et puis, ils devaient puiser de l'eau. Mais à quoi servait cette eau? À la cuve des ablutions dans le parvis du temple, qui est une image du baptême. Et je pense à ce qu'on a demandé à ces Gabaonites de faire dans la maison de Dieu. En réalité, ils sont ceux qui ont contribué à mettre en évidence la puissance du sacrifice de Jésus sur l'autel des sacrifices. Et ils ont contribué à conduire au baptême ceux qui, comprenant ce que le Christ avait fait pour eux, acceptaient de s'engager pour lui dans les eaux du baptême. Ce sont en réalité les deux objets qui se trouvent dans le parvis du temple et qui sont reliés directement à la réception du salut par la foi en Jésus-Christ. Ont-ils été vraiment condamnés à cela? Je pense au psaume 27 que nous lisions tout à l'heure. « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. » Ce qui est présenté dans Josué comme une malédiction est en fait la plus grande bénédiction qu'ils aient jamais pu recevoir. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, se trouve un passage qui parle de ceux-là qui travaillent dans le temple. Je vous propose de le relire avec moi dans Apocalypse, au chapitre 7. Nous lirons dès le verset 13. Apocalypse, chapitre 7, verset 13. L'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. » C'est une grâce de pouvoir servir le Seigneur dans son temple. C'est une grâce de pouvoir être participant à ce sacrifice et le mettre en évidence devant tous ceux qui sont là pour comprendre ce qu'il signifie. C'est une grâce d'être participant à l'œuvre de Dieu pour amener les autres au baptême. Les Gabaonites, en fait, ont reçu cette bénédiction incroyable. D'ailleurs, cette bénédiction a rebondi sur leur ville parce que Gabaon est devenue la ville où ont habité les sacrificateurs. Gabaon, c'est la ville où le sanctuaire du désert a été planté en attendant que le temple soit construit à Jérusalem. Gabaon, c'est l'endroit où Salomon a eu cette vision bien connue dans laquelle Dieu lui a demandé « Que voudrais-tu que je fasse pour toi ?» Et dans cette vision, Salomon a demandé la sagesse et non pas la richesse. Gabaon a reçu cette grâce et cette bénédiction de la part du Seigneur. Nous sommes invités aujourd'hui à venir à Jésus tel que nous sommes, comme les Gabaonites se sont présentés à lui, avec leurs conditions misérables, qui est en fait la seule condition pour que nous puissions recevoir la grâce de l'alliance avec le Josué de tous les temps. Et quand j'y pense, c'est une grâce parce que lorsqu'il m'engagera dans cette alliance, lorsque j'aurai fait cette alliance avec lui, il m'emploiera au service dans son temple pour montrer la puissance du sacrifice du Christ, pour montrer la voie de l'engagement vers lui par le baptême. Finalement, quand j'y pense, j'aimerais bien être un Gabaonite. Amen.